أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون ألا وكان كيف يكون، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à toi, le Tout-Puissant, qui par sa grâce, par son intelligence, par sa miséricorde, par sa clémence, nous nous sommes retrouvés une fois de plus dans ce mois béni de Ramadan de l'an 1447. De Hijri. Donc aujourd'hui, la prescription du jeûne de Ramadan à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1445 ans de cela. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a gratifié, qui a fait de nous parmi ceux qui vont vivre ce mois béni, dont beaucoup d'entre nous n'ont pas eu la chance de le revivre cette année. L'année passée, on était avec eux, on a jeûné avec eux, on a prié avec eux, on a fait tout avec eux, mais aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Nous, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié de cette grâce, il nous a accordé ce bienfait de revivre une fois ce Ramadan, nous l'implorant qu'il accepte de nous tout ce qu'on va œuvrer dans ce mois. Le jeûne, la prière, les doigts et tout ce qui se rapporte, les aumônes, etc. Parce que c'est une grande chance de vivre le Ramadan, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique que Ragim Amf Rajulim, il est perdant celui dont le Ramadan l'a trouvé en bon état de santé et il n'a pas fourni de l'effort pour qu'Allah lui fasse le pardon. Parce que c'est une chance que ce n'est pas tout le monde qui arrive à la voir. Nous remercions Allah et nous en sommes reconnaissants de cette grâce. Et nous a encore réunis autour de son livre béni, ce noble Coran, dont Allah subhanahu wa ta'ala, il a préféré parmi tous les livres céleste dont Allah a fait révéler. C'est le meilleur des livres révélés, car il renferme aussi la meilleure des paroles, la parole sacrée d'Allah. C'est le livre dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a consigné dans l'endroit le plus sûr, qui est l'ouvre mahfouz. Bon, le Coran Majid, Filohim, Mahfouz. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi plus meilleur des anges, qui est l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam, le Saint-Esprit, afin de transporter, afin de faire cette révélation, afin d'être intermédiaire entre le Seigneur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été avec les autres prophètes qui l'ont précédé. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi toujours pour ce Coran l'endroit où la maison sacrée appelée Bayt al-Izza, qui se trouve au premier ciel, là où Allah subhanahu wa ta'ala a intégralement révélé le Coran dans la meilleure des nuits, qui était donc les lettres 4, qui équivaut à 1000 mois d'adoration. Inna azalna fi laylatil qadr, laylatil qadr khayrun min alf shahr. C'est dans cette nuit bénie, laylatul mubarakah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce Coran. Au meilleur des prophètes, les chefs des files de tous les prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour la meilleure des communautés, qui est la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que le meilleur rassemblement, c'est le rassemblement autour du Coran. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. C'est le meilleur rassemblement. C'est la meilleure assemblée générale qui est autour du noble Coran. Allah aussi a choisi. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est authentique. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et il l'a enseigné, il l'a transmis aux d'autres générations. Et le meilleur, ou bien la meilleure maison, c'est la maison là où on lit le Coran au quotidien, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié la maison privée de la lecture coranique, que cette maison est considérée comme une maison incendiée parce qu'il n'y a pas lecture du Coran. Le Coran, le professeur nous a dit, c'est le meilleur compagnon, c'est le meilleur ami. Khairoujalis, si tu veux discuter, si tu veux t'adresser directement à Allah, c'est la prière. Mais si tu veux qu'Allah te parle directement, il faut faire recours au Coran. Le Coran, le professeur nous a toujours inspiré et incité, et il nous a exhorté dans sa lecture en nous garantissant que notre récompense, c'est à la lettre. Quand on lit le Coran, on est récompensé par lettre, pas par sourate ou par verset ou par hizib ou bien par lecture intégrale. Les oumandis du Coran, non, mais plutôt par lettre. Et chaque lettre vaut 10 bonnes récompenses. Mankara a les hadiths de Tirmidhi et Ibn Mas'ud. Mankara a harfan min kitabillah, lahu bihi hasna, wal hasnatu bi ashri amthaliha. Une lettre du Coran vaut 10 bonnes récompenses. Bismillahirrahmanirrahim, 19 lettres. Combien tu en auras? 19 fois 10. Tant 190. Ça, c'est la formule introductive de chaque sourate. Bismillahirrahmanirrahim. Sans pour autant parler de la sourate que tu vas lire. Combien de lettres contient chaque sourate? Ou bien chaque verset, les 6236 versets du Coran, chaque verset contient combien de lettres? Et c'est par lettres que tu seras récompensé, que tu seras rétribué. Et grâce à cette lecture parfaite, dans ce bas monde, le Coran va t'intercéder auprès de ton Seigneur. Le Coran et le jeûne, ils vont intercéder le lecteur. Le Coran va intercéder le lecteur, le jeûne va intercéder le jeûneur. Et si tu jeûnes et tu lis le Coran en même temps, donc déjà, tu auras deux grands intercesseurs auprès d'Allah. Tout ça, ça tourne au mérite et vertu de la lecture et de la compréhension du noble Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le jour de la résurrection, on dira au lecteur du Coran, Ikra wa rattil kama kunta takra'uhu aw turattiluhu fi dunya fa inna akhir manzilika fil janna akhir ayatin takra'uha. On va te dire de lire et tu vas monter aux escaliers du paradis. Ta dernière demeure dans le paradis, c'est le dernier verset que tu auras à lire le jour de la résurrection. Donc, c'est pour nous dire que les vertus, les mérites du noble Coran sont illimités, sont très vastes, de sorte qu'on ne peut pas les dénombrer. Donc, ce Coran que nous sommes aujourd'hui autour d'une des grandes sourates de ce livre qui est la sourate Baqara. Donc, on a parcouru les Ramadan passés et surpassés, on a parcouru 74 versets. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer les 75e verset de la sourate Baqara au niveau de Afatatumahuna Yu'minu Lakum. Et les versets qu'on a essayé d'expliquer, d'interpréter avec vous les séances passées, ça concerne un rappel, ça concerne une catégorisation des êtres humains dans ce monde sur le plan spirituel. Allah subhanahu wa ta'ala nous a classés en trois catégories et il n'y a pas une quatrième. Les croyants purs, les fidèles, les musulmans, les mécréants et les hypocrites. Ce sont les trois groupes qui vivent dans la société sur le plan spirituel. C'est soit un fidèle musulman ou un mécréant ou un hypocrite. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit les caractéristiques de tout un chacun. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a rappeler un certain nombre de passages historiques, en particulier la création de notre père Adam, le père de l'humanité, et maintenant la vie des enfants d'Israël. Allah Subhanahu a commencé à nous raconter l'histoire des enfants d'Israël qui va continuer dans le Coran, dans plusieurs passages coraniques, dans plusieurs sourates, afin de nous édifier sur leur comportement, sur leur psychologie et comment vivre avec eux, comment cohabiter avec eux et comment éviter le danger et le risque de cohabitation avec eux. C'est ça qu'Allah Subhanahu a commencé à rappeler à son prophète. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, et cette sourate Baqara, cette deuxième sourate du Coran, c'est une sourate médinoise. C'est une sourate qui a été révélée après l'émigration, après la hijra à Médine. Et à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, parmi les premières tractations, les premières relations diplomatiques que le prophète a commencé à traiter, c'était avec les Juifs. Les Juifs, c'est eux les enfants d'Israël. Les Juifs et les chrétiens, quand on dit donc que les enfants d'Israël, c'est les deux là. La grande famille de Jacob, Jacob le prophète, Jacob alayhi salam, ses petits-fils, ses 12 fils, y compris Youssouf alayhi salam, maintenant ce sont les arrières ou bien les petits-fils de Jacob, issus de ces 12 enfants du prophète Jacob. C'est eux qui constituent cette grande famille des enfants d'Israël et qui se sont subdivisés en deux sur le plan spirituel, donc en juif et en chrétien. Donc, c'est ça, puisque ce sont les deux grandes tendances spirituelles à l'époque, à part la troisième tendance qui est la tendance des polythéistes de la Mecque, les mushrikin, les associateurs, ou bien même les païens. Allah SWT, il veut édifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, et nous les autres, comment vivre avec les autres religieux, la cohabitation avec les autres religieux. Parce qu'après l'immigration, en l'an 622, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fondé son état à la Médine, à Médine. Donc, il va maintenant consolider les relations et il va bâtir cet état nouveau sur des bases très crédible. C'est pourquoi il a essayé de conclure des pactes et des traités, de signer des traités d'accord et des pactes avec toute la population composante de Médine à l'époque, dont les Juifs qui sont qui ont siégé Médine, au moins 3 tribus juives, Banu Qurayza, Banu Nadir, Banu Qaynuqa. Les 3 tribus juives qui ont siégé Médine avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'immigration. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi son premier pacte diplomatique, c'est avec les Juifs. Comment vivre à Médine en tant que des religieux différents. Et ils ont conclu des pactes. Ils ont signé des traités d'accord. Voilà, chacun va contribuer à sécuriser Médine. Chacun va contribuer à une cohabitation pacifique. Chacun va contribuer à la défense de la patrie de Médine. Chacun va contribuer sans pour autant regarder la diversité religieuse. Le prophète donc a signé cela avec eux. Et les musulmans ont respecté le traité jusqu'à ce que les juifs, ils ont remis en cause ce traité d'accord. Et c'est ça qu'Allah soit à là, il est en train de raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'histoire de ces gens pour que tu ne sois pas surpris de ce qu'ils vont faire avec toi après. C'est ça l'objectif de cette histoire qu'Allah a racontée dans la sourate Baqara, Ali Imran, Maïda, etc. à lire avec les enfants d'Israël. Et c'est ça qui va faire en sorte que toi, en tant que musulman contemporain, de comprendre la géopolitique sur les relations internationales qui étaient liées avec les autres. Comment Allah SWT il t'a édifié dans le Coran. Et que cela, ça se traduit à la lettre aujourd'hui, dans le monde actuel. Donc, la cohabitation pacifique, qu'on est en train de chanter nuit et jour, et on la prend comme un prétexte pour perpétrer un certain nombre de déstabilisations, le Coran nous a édifié. Quelles sont les bases, quels sont les principes fondamentaux d'une cohabitation pacifique avec les autres religieux. Le Coran nous a éclairé sur ça, et c'est ça que le Coran va nous édifier tout au long des Baqara et tout au long des autres sourates à venir. Et il nous a donné le principe que tant que les autres religieux, ils ne sont pas des ennemis qui vous combattent. Ils ne se sont pas dressés contre vous. Ils n'ont pas déclaré la guerre contre vous. Vous êtes obligés de vivre pacifiquement avec eux. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à Médine. Durant les cinq premières années, avant que les Juifs ne remettent pas en cause les clauses de traité qui a été signée dès le premier jour, dès la première semaine dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est accueilli à Médine. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi il faut qu'on soit très vigilant. Et aujourd'hui, dans les tourbillons et les tempêtes, à tout et à travers, on ternit l'image de l'islam à travers le fameux jihad du terrorisme, et on cherche à justifier à travers la cohabitation pacifique ou non avec les autres religieux, alors que c'est archi faux. Et tout le monde le sait, et eux aussi ils sont au courant que voilà comment l'islam a établi le prophète, voilà comment il a vécu avec trois tribus juives et comment il a vécu avec les chrétiens qui sont dans les autres contrées. Et jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même dénigré à Médine. La cinquième année de la prophétie, en l'an 615, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de s'exiler à l'Éthiopie ou bien à Abyssinie, c'est-à-dire Hamsha, qui est le corne de l'Afrique aujourd'hui. Les premiers musulmans ayant été torturés, persécutés et opprimés, le prophète les a trouvés un nazi, les a ordonnés d'aller chez Negus, Najashi, en Éthiopie ou bien dans le corne de l'Afrique aujourd'hui, pour trouver le refuge, pour nous montrer que ce genre de relations datait d'une longue date. Et voilà comment l'islam il a établi. Et aussi en 616, une autre vague de musulmans ont siégé le corps de l'Afrique, donc Habesha, toujours auprès de cet empereur Negus qui était chrétien et qui s'est converti en islam après. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il avait des voisins juifs. Jusqu'à un jeune homme qui visitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il était tombé malade et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait rendu visite. Jusqu'à ce qu'il s'est converti à l'islam à ses dernières respirations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti fier et reconnaissant envers son Seigneur d'avoir sauvé ce jeune homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a l'habitude de prendre lui-même, il s'est endetté. Il a pris des mesures de blé auprès d'un juif. Et il a donné sa gilet contrebande en gage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, il autorise ses relations, que ce soit commerciales ou sociales, politiques, avec les non-musulmans. Et jusqu'à ce que aussi l'islam a autorisé aussi de manger les viandes venues de la part des non-musulmans qui sont donc les gens du livre. اليوم أهل لكم الطيبات والطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم وطعامكم هل لهم سيك الإغارج il suffit de faire bismillah pour manger. Et aussi l'islam a autorisé le mariage d'une femme ou une fille donc des gens du livre à condition qu'elle soit comment dirais-je, est fidèle. C'est-à-dire, c'est pas, il n'est pas connu de fornication, non, non, non. Il est connu, donc, il est fidèle. On a autorisé. والمنصرات من المؤمنات والمنصرات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن موسنين غير مسافهين de la sourate Maïda, sourate 5. Donc ici, c'est pour nous dire, voilà comment l'islam a régi un certain nombre de principes pour la cohabitation pacifique avec les non-musulmans. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Dieu l'a dit, ne vous empêche pas dans la sourate Mumtahana de cohabiter pacifiquement, de faire des bienfaisances, des bonnes relations avec ceux qui ne sont pas de votre religion, tant qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas déclaré une guerre contre vous. Voilà ce que l'islam préconise vis-à-vis de cohabitation des musulmans et avec les non-musulmans. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas justifier le prétexte de certains agissements de certains dirigeants occidentaux qui veulent cacher derrière la cohabitation donc des musulmans et les chrétiens pour dire que les chrétiens sont opprimés ou ce sont les victimes de terrorisme, de ceci, de cela, raison pour laquelle ils vont intervenir pour sécuriser cette population donc qui est comment dirais-je, menacée, alors que c'est archi faux. Ils le savent mieux que quiconque. C'est ça qu'Allah va nous dévoiler, ce genre de secret, comment ils se comportaient auparavant et c'est ce comportement qu'ils vont continuer à perpétrer. Et si tu as le Coran avec toi, tu ne seras pas étonné de ce comportement dans ces gens, les dirigeants occidentaux sont en train de faire aujourd'hui en justifiant la cohabitation des musulmans avec les chrétiens pour la prétexter, pour dire que cette population est menacée, elle est ceci, elle est cela, on va la secourir, on va. Non, c'est un jeu des intérêts. C'est comme ça, toujours, s'ils constatent que leur intérêt est menacé, ils ont toujours des prétextes. Ils vont instrumentaliser les religions. C'est comme ça, ils ont instrumentalisé l'islam à travers le terrorisme, le faux jihad. Maintenant, puisque les mosques sont tombées, les gens ont compris. Même ceux qui refusent de comprendre ont compris. Vous comprenez ? Maintenant, on va instrumentaliser le christianisme pour dire que les chrétiens sont menacés. Est-ce que vous comprenez ? Ce sont des enjeux. C'est le jeu des dames qu'ils font. Maintenant, on finit d'instrumentaliser l'islam. On va instrumentaliser le christianisme. Demain, on va instrumentaliser telle religion. Demain, c'est une autre. On a essayé par la rébellion, ça n'a pas marché. On a essayé par ceci, ça n'a pas marché. Par la démocratie, par les droits de l'homme, par la religion, c'est comme ça. Par le racisme, c'est comme ça. C'est leur jouer des dames. Ils sont en train donc de les déplacer selon les circonstances, selon leurs intérêts, selon donc la, quand la tendance se renverse, ils vont chercher maintenant à remplacer tel enjeu par un autre. C'est ce qu'on devrait comprendre. Ce n'est pas la question de coexistence ou de cohabitation pacifique. Voilà l'islam, comment il nous a éclairé, comment il nous a édifié sur les principes de cohabitation pacifique avec les autres. Mais le fait de prétexter qu'aujourd'hui les chrétiens se sont menacés, ceci, cela, ceci, cela, non, c'est une nouvelle donne. C'est parce que les masques sont tombés. Pour ce qui est du terrorisme qui est caché derrière le jihad de l'islam. Et maintenant, il faut chercher un autre argumentaire, il faut chercher un autre prétexte. C'est ça seulement. Mais sinon, ce n'est pas pour protéger ou pour sécuriser. Parce que l'islam, il a déjà tracé. Si tu es un musulman averti, donc tu connais les valeurs et les principes fondamentaux de la cohabitation avec un non-musulman. Et c'est quelque chose qui est clair. Mais, puisqu'on veut à tout prix créer des faux des foyers de tension et de conflit pour continuer à piller les ressources, pour continuer à faire le business, donc il faut chercher à tout prix un prétexte. Et la religion, elle est facile à être instrumentalisée parce que quand on touche à la religion, c'est très sensible. Est-ce qu'on comprend? C'est le côté sensible de tout un chacun, la religion. C'est pourquoi donc on prend ça comme les enjeux. Donc dans le business des terroristes, dans le business des puissances occidentales et autres, C'est ça. C'est ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala est en train de nous indiquer ici pour nous dire que c'est leur ancienne habitude et ils vont continuer à faire ça du jour au lendemain. Il ne faut pas être surpris. Et c'est ça, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lorsqu'il a rapporté les relations avec les prophètes. Si les prophètes ont souffert avec les enfants d'Israël, si les prophètes ont été assassinés, ils ont été même tentés à être crucifiés, ils ont été, comment dirais-je, décapités. Si les prophètes ont été maltraités par ces gens, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de nous? Si c'est des prophètes, c'est leur rapport avec le prophète Moïse, Moussa, alayhi salam, qu'Allah soit ta'ala nous a raconté. Qu'en est-il maintenant de leur rapport avec nous, avec vous? C'est ça l'enjeu. Et c'est pourquoi Allah soit ta'ala nous avertit pour que nous soyons, pour ne pas être surpris de leur comportement, de leur jeu. C'est comme ça dans l'histoire et c'est comme ça qu'ils vont continuer à faire. Ils ne vont pas changer. Et c'est pourquoi Allah SWT il nous a dit afin que Mahouna.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُزَكِّرُ بِهِ. Après le récit donc des enfants d'Israël avec Moussa alayhi salam dans certaines circonstances et dans ça, d'autres circonstances viendront après. Allah SWT il a conclu leur relation avec leurs prophètes et maintenant il avertit le prophète Mohammed sallallahu alayhi salam et les musulmans d'être vigilant par rapport à ces gens en disant afatatma'una ayyukum lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Croyez-vous, vous les musulmans, pensez-vous que ceux-là, les enfants d'Israël qui ont traumatisé leur prophète, pensez-vous à votre tour ils vont vous croire, ils vont vous traiter de confiance, ils vont vous croire. Alors voilà comment ils sont agis vis-à-vis de leurs prophètes. Comment espérez-vous? Comment pensez-vous qu'ils vont agir d'une bonne manière avec vous? Si leurs agissements, leurs réactions avec les prophètes étaient ainsi, pensez-vous, croyez-vous, estimez-vous qu'ils vont vous croire, qu'ils vont accepter ce que vous avez comme religion de l'islam qui a été prêchée par leurs prophètes qui ont précédé le vôtre? Pensez-vous que cela sera facile? Alors qu'un groupe parmi eux, et c'est-à-dire leurs prêtres, leurs savants, leurs oulémas, yasma'una kalam Allah, ils entendent et ils comprennent la parole d'Allah. Ils l'ont étudié et ils l'ont bien saisi, ils l'ont bien compris. Mais avec tout cela, summa yuharrifunahu, Après avoir compris le sens et le contenu des versets de la Torah ou Ancien Testament chez les chrétiens, ou les versets de l'Évangile à l'Injile, le Nouveau Testament, après avoir compris textuellement ce qui est écrit, et surtout ce qui encadre, ce qui rattache avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son avènement en tant que le dernier messager d'Allah, que cela a été décrit avec, à travers son portrait physique et moral. Après avoir compris tout cela, cette classe des ulema, des savants, des prêtres, des enfants d'Israël, ils falsifient ce contenu. Ils changeaient, ils modifiaient le contenu de la Torah et le contenu de l'Injil, le Nouveau Testament, et le contenu de l'Ancien Testament. Bien qu'ils le savent, ils le font volontairement, consciemment. Ils effacent des versets, ils déplacent des versets, ils changeaient, ils falsifiaient, ils modifiaient des versets sciemment pour camoufler la vérité qui a été dite par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Afatatmauna an yu'minu lakum. C'est ces gens-là que vous espérez, que vous pensez, que vous croyez, ils vont vous croire. Alors que c'est un, voilà leur comportement vis-à-vis de leur prophète, vis-à-vis de leurs livres qui leur ont été révélés. Ils sont capables de les changer, de les falsifier, de les modifier à tort et à travers du jour au lendemain. C'est ces gens-là que vous croyez qu'ils vont accepter de vous ce que vous les avez amené. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه إذا لا سرت ما إذا وصي الله الذي يحرفون الكلمة أما وضعه ونسوا هذا مما ذكروا به الشانجي لزم موديفي L'histoire a montré dans beaucoup de circonstances les changements, les falsifications et les modifications de ces textes biblique de la Torah ou bien de l'Évangile. On va illustrer un certain nombre donc des exemples dans les séances à venir, Inch'Allah. Donc, وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. Alors que ils sont conscients de ce qu'Allah a dit par rapport à telle ou telle disposition, par rapport à tel ou tel prophète, et en particulier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier prophète, le prophète universel, qui l'humanité sera sauvée à travers lui. Ils sont conscients de cela, et ils modifiaient. Après avoir compris ce message, ce texte, pas même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même les compagnons du prophète ont été, Allah a raconté leurs histoires, leurs récits, leurs portraits physiques et moraux dans les textes bibliques. Mais avec tout cela, leurs ulémas, leurs prêtres, ils ont modifié. Wahum ya'lamun. Alors qu'ils le font sciemment, volontairement. Ce n'est pas par l'ignorance, ni par erreur, ni par contrainte. Non, c'est volontairement et sciemment. Pour camoufler cette vérité, pour dire que c'est eux qui sont sur la vraie voie, c'est eux qui sont sur le droit chemin, alors que ce n'est pas ainsi. En faisant quoi?
وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ce groupe, c'est cette classe des savants juifs des enfants d'Israël, une fois qu'ils rencontrent les musulmans à Médine, parce qu'ici on parle de la société médinoise, et ces trois tribus juives qui ont cohabité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine les cinq premières années avant qu'ils ne remettent en cause les pactes et les traités d'accord signés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'ils rencontraient les musulmans, Kalu Amana, ils vont leur faire montrer qu'ils sont d'accord, ils ont crié à leur prophète. Oui, le prophète, là, il a été mentionné dans nos livres, dans nos écrits. Allah, il a dit, voilà ce prophète, il viendra à tel moment, il sera naquis ici, ceci, cela. Ils vont les dire. Wa iza khalabadu ila ba'di qalu atuhaddithunahum bima fataha Allah alaykum liyuhajjukum inda rabbikum afala ta'qilun. Maintenant, une fois qu'ils vont se rencontrer entre eux, ils vont s'avertir, ils vont dire non, il ne faut pas dévoiler le secret aux musulmans. Il ne faut pas dire aux musulmans que leur prophète a été mentionné dans nos livres. Il ne faut pas dire ça. Ça, vous leur donnez raison. Et ils vont vous combattre avec cette arme. C'est comme une arme que vous les fournissez. Quand vous dites que leur prophète a été mentionné dans la Bible, dans la Torah ou dans l'Évangile, dans l'Injil, c'est comme vous les a donné des arguments contre vous. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Et même pas contre vous, même le jour de la résurrection, ils vont argumenter devant Dieu, devant Allah, que vous avez attesté, vous avez confirmé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été bien et bien cité dans la Bible judéo-chrétienne. Si vous dites aux musulmans ça, c'est quoi, vous les donnez de raison. Raison pour laquelle il ne faut pas les dire. Atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Quand vous les dites comme ça, non. Ils vont prendre ça comme une arme pour vous combattre. Parce que vous approuvez, vous attestez, vous témoignez que leur prophète a été bien nommé, bien raconté, donc c'est-à-dire son récit, dans vos écrits, dans les textes bibliques, dans la Torah ou dans l'Évangile, ou dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il ne faut pas dire ça. Et c'est ça aussi qu'Allah a dit dans la sourate Al-Imran, qu'il dit de croire une partie donc de la journée, et il faut remettre en cause cette foi de l'autre partie de la journée. Donc voilà, c'est ce qu'Allah est en train donc de nous dire. Leur comportement envers les musulmans en cherchant à camoufler la vérité qui a été dite dans les textes bibliques par rapport à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne veulent pas que les savants des enfants d'Israël, les juifs ou les chrétiens, leurs savants, de dire ça aux musulmans pour que cela ne soit pas pris comme un argument contre eux. Mais malgré tout, cet argument-là, il est contredit. Donc, beaucoup de passages dans la Bible a démontré jusqu'à présent que ce que Allah a raconté comme histoire, comme portrait physique ou moral du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça existe jusqu'à présent, malgré la falsification, l'altération et la modification de ces textes. Jusqu'à présent, beaucoup de textes bibliques relatent cette réalité. Et on va justifier ça, Inch'Allah, dans la séance prochaine, de demain, ou de demain et après-demain, avec des exemples donc concrets donc de l'histoire et de la Bible donc, qui nous montrent bel et bien que ce qu'Allah a dit, « Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun » Donc, il modifie, il changeait les textes relatant l'histoire du dernier prophète pour qu'il continue à dire que c'est eux qui sont sur la vraie voie. Et c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils connaissent mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam mieux qu'ils connaissent leurs enfants. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم le connaissent bien pas prophète même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah a donné un portrait moral et physique donc de ces compagnons là à plus forte raison que le bien-aimé d'Allah, le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va, comment dire, approuver cela à travers des passages donc bibliques qui sont approuvés par l'histoire pour voir le rôle du Coran dans la rectification et la correction des subjectivités historiques. Parce que l'histoire est pleine de subjectivités et surtout l'histoire spirituelle des enfants d'Israël vis-à-vis donc des autres prophètes et en particulier vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont compromis l'histoire et maintenant le Coran est venu pour régresser, pour rectifier, pour donner un élément de réponse. Donc, on ne peut pas y trouver que dans le Coran qui constitue la dernière révélation. Parce que le changement là et la falsification de ces livres, personne ne peut approuver ça si ce n'est pas un autre livre céleste. C'est seul un livre céleste peut démentir, peut dévoiler les secrets de ces changements. Parce que c'est des livres révélés. Aucun livre ne peut les défier en dehors de notre livre révélé. C'est pourquoi seul le Coran peut dévoiler ses secrets. Sinon, tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Sauf le Coran et à travers l'histoire qui ne ment pas. La vraie histoire, les faits selon la chronologie des événements historiques, ils vont nous approuver cette réalité que le Coran nous parle ici. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Et ça c'est historique, même dans la vie contemporaine n'est pas loin. En 2023-24, donc sur la question de LGBT, les homosexualistes, là, vous avez comment la tension s'est déclenchée entre Pope qui est décédé, Bénédicte, François Dumas, et les autres posters ici, donc même en Afrique, qui n'ont pas accepté la décision de Pope qui consiste à relayer, à dégager l'histoire de Sodome
Le peuple du prophète Lout qui ont été massacrés à cause de l'homosexualité, ils ont voulu changer ou bien même retirer cette histoire de la Bible pour rester en paix, pour donner l'occasion à l'homosexualité. Ça, c'est récent. Et il faut naviguer ça et là. C'est quelque chose, c'est un fait palpable qui a été fait. À plus forte raison, c'est qu'on va relater sur l'histoire, ce qui est tout proche de nous, 2023. Vous comprenez? Donc c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Il le change consciemment et volontairement après avoir compris les enjeux. Parce que s'il n'a pas senti le danger, puisque donc s'il valide l'homosexualité, voilà la Bible interdit. Surtout donc l'Ancien Testament. L'histoire est là. Vous comprenez? Maintenant, comment échapper? Il faut retirer l'histoire. Si ça ne se figure pas, c'est fini. Donc voilà à résumer ce qu'Allah soit là, il cherche à nous faire comprendre que ce qui se passe de la part des enfants d'Israël, leurs agissements, leurs comportements vis-à-vis des prophètes ou vis-à-vis de vous, les musulmans, donc c'est quelque chose qui date d'une longue date, c'est pas récent. Et c'est leur habitude. Et l'habitude est une seconde nature. Donc, on va s'arrêter à ce niveau. Demain, Inch'Allah, on va essayer de justifier avec un certain nombre de passages bibliques confirmés, approuvés par l'histoire, qui montrent la réalité de ce que ce verset vient de nous dire, pour voir que le Coran il est là pour rectifier les fausses versions de l'histoire, pour nous relater les faits tels qu'ils ont été, comment dirais-je, déroulés selon leur chronologie. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Il faut arrêter.